tout le monde. Dans le fond, je vais lire avec vous ce matin Actes 2, 14 à 41. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré, le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen.
Amen. Merci. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette belle lecture de la parole de Dieu. Le premier message, le premier discours, tout de suite après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, le discours de Pierre, c'est le texte qu'on va regarder ensemble ce matin. Tout d'abord, je veux vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et j'aimerais juste prendre le temps de remercier l'équipe de louanges, l'équipe technique qui rend possible que la célébration soit diffusée dans notre salon semaine après semaine. Et je ne sais pas si vous remarquez ce matin ou non, mais parce qu'on le voit pas à l'écran, mais peut-être que vous le remarquez comment l'éclairage est différent. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé aussi dans les dernières semaines. Il y a des gens qui ont travaillé vraiment fort pour améliorer ça, entre autres David Joannis. Et dans le fond, la raison pourquoi je veux remercier, puis j'étais vraiment ému de voir ça ce matin, c'est de voir à quel point l'Église continue de vouloir s'améliorer, de vouloir offrir du mieux qu'on peut la parole de Dieu dans vos foyers, dans la ville de Gatineau, tout en entier. Et je veux juste remercier tous ceux et celles qui contribuent, qui continuent de le faire de diverses manières. Et donc, merci à l'équipe technique. Vous êtes vraiment précieux pour nous dans ces temps où la technologie est vraiment utilisée. Donc, juste une petite dernière nouvelle aussi. Cet après-midi, l'équipe pastorale va rencontrer les responsables de ministère, les responsables de groupe, et on aimerait ça que vous puissiez prier pour nous aussi. Dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va réfléchir, on va préparer notre campagne de 21 jours de prière et de jeûne qui va commencer. La semaine prochaine, ça va déjà être le pré-lancement, mais le jour 1 du 21 jours de prière dans 2 semaines. Et c'est toujours un temps béni pour notre assemblée. À chaque année, Dieu fait des belles choses. C'est un temps d'encouragement pour plusieurs d'entre nous. Donc, cet après-midi, on va se rencontrer pour préparer ça ensemble, prier ensemble, regarder ce que Dieu a pour nous cette année. Donc, on vous encourage à prier pour nous d'ici cet après-midi pour la rencontre à 1h30. Donc, cette semaine, j'étais avec des amis dans un 5 à 7 sur Zoom. On mangeait ensemble, mais pas vraiment. On ne mangeait pas la même chose. Vous comprenez les genres de soupers qu'on peut avoir ces temps-ci. Mais j'étais sur Zoom avec des amis et un des personnes a posé la question, c'est qu'est-ce qu'on aime regarder? C'est quoi nos films préférés? Donc là, on a comme discuté ensemble de nos différentes réponses pour différentes raisons. Certains films plus raffinés que d'autres, effectivement. Et moi, j'ai nommé mes films préférés, j'en ai plein. En fait, j'aime beaucoup regarder les films, mais le premier qui m'est venu en tête à ce moment-là, c'est la série de films de Rocky, le boxeur. Rocky, le boxeur, puis aussi, il y a comme d'autres films qui ont été faits après qui s'appellent Creed, qui est comme une suite de la série Rocky avec un nouveau boxeur que Rocky lui-même va entraîner. Et ensuite, on se posait la question, pourquoi est-ce que le film que tu as choisi, c'est ton film préféré? Et puis, c'est vraiment une bonne question parce que je me suis mis à réfléchir à ça, puis j'ai même comme réfléchi, pensé plus tard à cette question-là. Et puis, une des choses qui est vraiment surprenante dans Rocky, si vous avez vu les films. Si vous ne les avez pas vus, je me sens pas mal de vous les dévoiler. C'est quand même un film des années 70-80. Mais dans ces films-là, c'est un boxeur qui va toujours comme rencontrer plein d'obstacles pour ensuite se battre contre quelqu'un qui ne devrait pas battre. Puis là, il va s'entraîner super fort pour pouvoir finalement, à la fin, gagner le combat. Et c'est comme une genre d'histoire d'un gars qui n'était pas connu, qui était dans un quartier défavorisé de Philadelphie, pas trop une vie connue et tout. Et puis là, il va s'entraîner. Puis à la fin, il va réussir à devenir populaire, à devenir un champion du monde, à devenir un des boxeurs les plus populaires de sa génération. Et la question que je me posais, qui est venue en moi quand je regarde les films de Rocky, c'est cette question, une question qui est là souvent dans ma vie, qui est vraiment souvent présente dans chacune de nos vies, j'imagine, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que je vais être assez bon? Est-ce que je vais réussir la tâche qui est devant moi? Est-ce que je vais réussir, dans le cas de Rocky, c'est est-ce que je vais réussir à devenir champion du monde? Est-ce que je vais battre ce boxeur qui est comme impossible à battre? Dans Rocky 4, on dirait qu'il se bat contre un robot, dans le fond, là, quasiment, tellement que le gars il est entraîné, il est surentraîné. Et puis, c'est toujours cette question, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et souvent dans la vie, je me pose ces questions-là. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un bon père pour mes enfants? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir dans mes projets, dans mon travail, dans mes relations? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour répondre à l'appel de Dieu qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » pour être un témoin de Jésus? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et souvent, on se pose cette question-là et on cherche la réponse comme si c'était nous qui avions la réponse à l'intérieur de nous. Et on vit souvent, on va travailler fort, on va par plusieurs efforts, on va s'essayer de plusieurs moyens pour réussir notre vie. Et on cherche la réponse à l'intérieur de nous. Mais est-ce que Dieu peut faire une différence pour répondre à cette question? Est-ce que Dieu agit encore dans nos vies aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut répondre à cette question? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que Dieu pourrait répondre, bien, peut-être que moi j'ai ce qu'il faut et je veux t'accompagner et te donner ce que tu as besoin? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore une discussion pertinente pour nous dans notre siècle? C'est une bonne question. Certains vont dire absolument pas, d'autres absolument. Mais c'est vraiment intéressant parce que ce matin, on a entendu la lecture du premier discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment le début de l'Église. Et vous savez, Jésus avait dit, juste avant de partir, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vraiment, ici, on est là, c'est le début de l'Église. Et là, il y a ces hommes, ces personnes qui regardent les disciples parler dans différentes langues, que les gens peuvent comprendre dans leur propre langue, comme on voit au début du chapitre 2. Et puis là, les gens qui sont là, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ne comprennent absolument pas ce qui vient de se passer, se demandent si les disciples ne sont pas sous, ils n'ont pas trop bu, puis là, ils sont en train de comme tituber un peu, sont en train de dire un peu n'importe quoi, puis c'est vraiment comme le party qui est pris, mais à 9h du matin. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Pierre, lui, effectivement, évidemment, il comprend ce qui se passe et il va leur donner la réponse. Il va leur expliquer non pas seulement ce qui se passe, mais d'où vient cette puissance. Parce que les disciples ne sont pas sous, les disciples ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Les disciples sont en train d'expérimenter une puissance et je vais vous présenter cette puissance-là. Et il va affirmer, et c'est cette vérité pour chacun d'entre nous, que cette puissance est encore et toujours disponible aujourd'hui. Pierre est en train d'expliquer. En fait, Pierre va nous pointer vers Jésus. Et c'est vraiment intéressant de voir que le premier discours de Pierre, quand il va expliquer au peuple ce qui est en train de se passer pour la première fois, Pierre va nous parler de la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et le règne de Jésus. Il va parler d'une personne, parce que cette puissance se trouve dans une personne et dans ce qu'elle a fait. Mais avant de présenter Jésus, Pierre va expliquer ce qui est en train de se passer. Et en utilisant le prophète Joël, et on n'a pas le temps ce matin d'aller en détail dans toutes les explications vraiment intéressantes du passage, mais ce que Pierre est en train de dire, c'est que vous êtes en train d'assister au début d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps, d'une nouvelle époque. Et là, il s'adresse à des Juifs pour qui c'est très clair que pour eux, la présence de Dieu est dans un endroit. Pour qui c'est très clair pour eux que seulement certaines personnes ont accès à la présence de Dieu et peuvent comprendre et expliquer le message de Dieu. Et Pierre va leur dire, maintenant, vous êtes dans une nouvelle époque où non seulement, où chaque personne qui va croire au nom de Jésus va pouvoir être en relation avec Jésus, où chaque personne va pouvoir connaître Jésus et avoir une relation de proximité avec Jésus. Vous êtes dans une époque où les hommes, les femmes, les vieillards, les jeunes, les pauvres, les riches, tout le monde a accès à Jésus. Tout le monde a accès à connaître Jésus, à comprendre le message de Jésus et de vivre une relation avec Jésus. Tout le monde y a accès maintenant. Dieu en nous. Voici ce qui se passe. Dieu est en nous. C'est maintenant possible de comprendre la volonté de Dieu pour quiconque croit en Jésus. Vous avez maintenant la capacité en vous de parler de Jésus et d'annoncer le beau message de ce que Jésus a fait pour vous, pas par vos propres forces, pas parce que vous avez ce qu'il faut, mais c'est parce que Dieu, qui lui a ce qu'il faut, vous a donné son esprit pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez être des témoins puissants. Voici ce qui se passe. Et c'est ce temps où Dieu va utiliser son peuple, c'est-à-dire l'Église, pour faire connaître son nom et l'impact que Dieu peut avoir dans nos vies et dans le monde tout entier. Alors, quelle différence fait-il aujourd'hui? J'aimerais que tu sois attentif ce matin si tu es parmi nous et que tu ne crois pas en Jésus. Tu n'as peut-être pas mis ta confiance en lui, mais que tu puisses considérer la personne de Jésus, ce qu'il a fait et la force, la puissance de ce qu'il peut faire dans ta vie. Et chacun d'entre nous, Église Le Sentier, ce matin, qui sommes ensemble, réunis et qu'on a mis notre confiance en Jésus, combien de fois dans notre vie on a besoin de se rappeler que Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies? Combien de fois on a besoin de se rappeler que Dieu agit encore dans la vie des gens qui nous entourent? Que Dieu a la puissance d'agir, même si de moins en moins de gens, on aurait l'impression autour de nous qui croient en Jésus, même si la société est de moins en moins christianisée, même s'il y a de plus en plus d'opposition, la puissance de Dieu agit encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. Cette puissance vient d'une personne et Pierre va nous la présenter. Et c'est vraiment intéressant parce que Pierre s'adresse au peuple à Jérusalem, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus. Les mêmes personnes qui n'ont pas cru que Jésus était Dieu et qui croyaient ça assez impensable qu'un homme puisse se prendre pour Jésus, qu'on l'a fait mourir pour cela. On a fait mourir Jésus parce que Jésus disait qu'il était le roi, qu'il était le Messie, que les Juifs attendaient, qu'il était Dieu lui-même. Et c'est ces disciples-là à qui Pierre va s'adresser. Et c'est vraiment intéressant parce que pour ces gens-là, la mort de Jésus aurait dû taire toute tentative de démarrer cette nouvelle croyance, cette nouvelle religion, tout engouement pour le christianisme, pour les disciples de Jésus aurait dû s'éteindre avec la mort de Jésus. Mais là, il se passe quelque chose de phénoménal, quelque chose de puissant. Les gens expérimentent quelque chose dont ils ne sont pas capables d'expliquer. Et Pierre va leur dire, voici ce qui se passe. Dieu est vivant. Et Pierre va nous parler de la vie, de la mort, de la résurrection et du règne de Jésus. Et je vais juste relire dans Acte 2, au verset 22, la vie de Jésus. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Pierre commence en parlant de la vie de Jésus. Jésus de Nazareth. Cet homme que vous connaissez tous, vous savez de qui on parle. C'est un homme qui a vécu dans l'histoire, qui a fait partie de l'histoire récente pour eux, des Juifs. Et vous le connaissez, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, vous avez entendu qu'il a attiré les foules, qu'il a fait des miracles, qu'il a fait toutes sortes de prodiges. C'est de ce Jésus-là dont je veux vous parler. Parce que la vie de Jésus, tout entière, témoigne que Jésus était Dieu et que Jésus est venu pour une raison qui était de sauver son peuple, qui était de donner la vie, qui était de nous pardonner de nos péchés. On peut le lire dans tous les évangiles que Jésus est venu pour donner sa vie, pour que nous puissions avoir une relation avec le Dieu créateur de l'univers. Et toute la vie de Jésus, ses miracles ont témoigné qu'il était tout puissant, plus puissant que la nature, plus puissant que toute chose en fait. Les miracles de Jésus ont démontré qu'il était maître et qu'il était Dieu lui-même et qu'il pointait vers la puissance de Dieu. La vie de Jésus, ses discours, tout ce qu'il a dit, ce que Jésus a dit de lui-même, si ces hommes, si le peuple a crucifié Jésus, a fait mourir Jésus sur une croix, eh bien, c'est parce que Jésus lui-même disait qu'il était Dieu. Il empruntait des phrases comme « je suis » qui était un terme qui pouvait être utilisé pour parler de Dieu. Il dit « avant Abraham, avant qu'Abraham soit, je suis ». Il prend un mot pour dire qu'il est Dieu. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est venu et il s'est proclamé la vérité, la vie et le chemin pour avoir une relation avec Dieu. Et Pierre nous parle de ce Jésus, sa vie. Au verset 23, il va dire, en parlant encore de ce Jésus, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Pierre va dire, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et vous savez, on est ici, on parle de cette histoire 2000 ans plus tard, comme plusieurs années plus tard, on pourrait dire. Et on en parle encore. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient que Jésus est celui qui a transformé leur vie. Encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui veulent donner toute leur vie pour Jésus et qui veulent suivre les instructions de Jésus et qui veulent suivre l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu, ce que Jésus a dit. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient en Jésus. Et c'est certainement, nous, l'Église de Sentier, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous voulons partager comme message, que Jésus est vivant. Mais laissez-moi vous dire, quand Jésus est mort sur la croix, ses disciples se sont dispersés, on le sait, on l'a déjà dit, ses disciples se sont dispersés, ils sont retournés à leur travail d'avant, ils étaient vraiment tristes, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Et tout le monde était convaincu, et ce n'était pas la première fois qu'il y avait un homme qui soulevait des foules à cette époque-là, et qu'une fois qu'on le faisait mourir, bien, les gens arrêtaient de propager cet enseignement-là ou les pensées de cet homme-là. Alors, quand que Pierre va dire à ces personnes, « Vous l'avez fait mourir », en d'autres mots, il est en train de dire, dans un sens, « Jésus est mort, vous devriez crier victoire. » Ça devrait être la fin de cette histoire. Ça devrait être pour vous le résultat, la preuve que vous avez gagné. Mais Pierre va dire que c'était le plan de Dieu. C'est selon le plan de Dieu que vous avez fait mourir Jésus. Ce qui devait contribuer à le faire taire, s'est avéré être le message le plus puissant de l'histoire. Ce qui devait confirmer qu'il n'était pas Dieu est devenu la plus grande démonstration de puissance et de salut. Il y a des gens qui ont dit à Jésus quand il était sur la croix, « Sauve-toi toi-même. Tu as fait plein de miracles ici et là. Pourquoi tu ne fais pas juste descendre de la croix? » Eh bien, Jésus aurait pu le faire. Mais puisque Jésus est resté sur la croix, il est resté pour que plusieurs puissent le connaître et plusieurs puissent être pardonnés de leurs péchés et être sauvés. Vous voyez, ce Jésus que vous avez crucifié injustement, il était innocent. Il était là pour sauver le peuple, pour transformer la vie des gens et vous l'avez mis à mort. Mais c'est cette injustice, c'est cette action, le fait que vous l'avez tué, qui est le moyen que Dieu a choisi pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, Jésus est mort pour nous pardonner nos péchés. Parce que chacun d'entre nous, on était coupable devant Dieu d'avoir désobéi à Dieu, de ne pas avoir cru en Dieu, d'avoir été ennemi de Dieu. Et Pierre s'adresse aux ennemis directs de Jésus, ceux qui l'ont mis sur la croix, Mais il a dit, c'est cette action-là, c'est Jésus mort sur la croix qui a contribué au salut des gens. Pierre ne pouvait pas le mettre plus personnel. Ce Jésus que vous avez crucifié. Romains 5,8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu, c'est Jésus qui meurt pour des pécheurs. Christ qui va à la croix en pleine obéissance à Dieu et qui accepte de mourir sur la croix. Mais c'est encore plus, une plus grande preuve de son amour quand on réalise que les gens pour qui Jésus est mort, sont ses ennemis. Parce que dans Romains 5,10, on peut lire, « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Voici l'amour de Dieu pour nous. Jésus qui meurt sur la croix pour ses ennemis. Oui, ceux qui l'ont crucifié littéralement, mais chacun d'entre nous sommes responsables du fait que Jésus est allé mourir sur cette croix à cause de notre état pécheur, à cause de notre rébellion, à cause que nous étions ennemis de Dieu, puisque nous croyons que nous pouvons vivre notre vie sans Dieu. Jésus devait mourir sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec lui et puissions être pardonnés de nos péchés. Mais si, comme j'ai dit, si Jésus était juste mort, tout ça, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Et à ce point dans l'histoire, même que j'imagine les gens qui écoutent l'histoire, puis ils connaissent l'histoire, tout ce que Pierre dit jusqu'à maintenant, peut-être qu'il ne l'aurait pas raconté comme ça, mais ils connaissent l'histoire. Et ils se disent, ouais, OK, mais ton Jésus, il est mort. Mais là, Pierre va user de paroles vraiment puissantes. Et on peut lire au verset 24, où est-ce que Pierre va parler, il va dire, « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. » Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. La résurrection de Jésus. Quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Vaincre la mort, c'est la victoire ultime sur tout le mal qu'il y a sur la terre. Est-ce qu'il y a un mal plus grand que la mort? Y a-t-il quelque chose qu'on déteste plus que la mort? Y a-t-il quelque chose qui va défaire nos plans plus que la mort? Y a-t-il quelque chose qu'on peut avoir plus peur que la mort? Mais Jésus a vaincu la mort, Dieu l'a ressuscité. Et voici, c'est ce qui a changé toute l'histoire. Parce que la mort de Jésus et sa résurrection, la résurrection de Jésus est la preuve ultime de toute puissance. Il n'y a jamais personne qui a rien fait de plus puissant, de plus grand, de plus fort que de ressusciter des morts. Alors, est-ce que la mort, est-ce que la résurrection de Jésus est assez importante, assez grande pour nous garder notre attention? Jésus, par sa résurrection, a été le plus grand de l'histoire, le plus puissant de l'histoire. Il prouve qu'il est qui il dit qu'il est. Il prouve qu'il est digne de régner sur toute chose et de décider ce qui est bien et de décider ce qui est mal. Il prouve qu'il est celui qui a la puissance de prendre soin de nous, qui est celui qui a la puissance de nous garder. Et il prouve que quand il dit qu'il est avec nous et qu'il nous envoie pour être des témoins dans toute la terre de ce qu'il a fait pour nous, il prouve qu'il va être avec nous et qu'il va nous garder. Et c'est ce que Pierre veut qu'on sache. Il va parler du roi David. Dans les psaumes, il va dire « David ne parlait pas de lui-même » parce que David, lui, il est mort et David n'est pas ressuscité. David était un grand roi, mais David est mort aujourd'hui. Jésus est le roi des rois, celui qui vit, celui qui règne, celui qui sait ce qui est bon, celui qui sait ce qu'on a de besoin. Jésus règne sur le trône. Et en régnant, et on peut le lire Je vais juste lire le verset 36 qui dit « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Et on peut voir dans ce passage que Jésus est assis à la droite de son Père et qu'il règne à sa juste place. Et que fait-il dans son règne? Eh bien, Jésus nous sauve. Il nous donne la vie. Il nous donne une vie nouvelle. Et il nous donne son esprit. Jésus donne son esprit à tous ceux qui croient en lui. Il nous donne une vie nouvelle et il nous transforme. Il nous accompagne. Il est avec nous. Et la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc la puissance de la résurrection, se trouve maintenant à l'intérieur de nous. La puissance de la résurrection se trouve à l'intérieur de nous. On vient de voir que c'est l'acte le plus puissant qui aurait pu être fait dans toute l'histoire. Personne n'est capable de réveiller quelqu'un d'entre les morts, mais Dieu le fait. Et cette puissance qui agit en nous, cette puissance que Jésus t'a promis, quand Jésus te dit « Sois mon témoin à ton travail, sois mon témoin à l'école, sois mon témoin dans ton voisinage, parle de moi, parle de ce que j'ai fait dans ta vie, aime ton prochain, prends soin des autres, donne ta vie pour me servir. » Cette puissance qui est en nous quand Jésus nous le demande, c'est la puissance de la résurrection. Qui nous donne la capacité de comprendre la volonté de Dieu, qui nous donne la capacité d'être transformé, de résister au mal, de résister à la tentation. Un homme est mort en Italie il y a plusieurs centaines d'années. Et cet homme-là détestait le christianisme. Mais en même temps, il avait entendu des choses et il en avait un peu peur. Par exemple, il avait entendu que possiblement qu'à la fin des temps, à la fin de toutes choses, les êtres, il allait avoir quelque chose qui s'appelle la résurrection d'entre les morts. Et cet homme avait tellement peur de ressusciter qu'avant de mourir, il a fait faire une immense dalle de pierre qu'il fallait mettre par-dessus son cercueil pour être sûr que la résurrection d'entre les morts n'allait pas être capable de l'atteindre. Et quand il est mort, on l'a enterré. Et en l'enterrant, il y a un gland d'un chêne qui est tombé avec lui, possiblement dans la tombe. Donc au cours de plusieurs années, le gland a commencé à pousser. Et à un moment donné, a fendu la dalle en deux et l'arbre a poussé et c'est devenu un immense chêne. Cet homme avait peur de la résurrection des morts, mais c'est un petit gland qui a brisé sa dalle. Et imaginons-nous, qu'est-ce que si un gland qui a certainement la capacité, la puissance de la vie de pousser, si un petit gland peut fendre une dalle d'une telle grosseur, qu'est-ce que la puissance de la résurrection peut-elle faire dans ma vie? Quand que Jésus me dit qu'il me donne le Saint-Esprit, quand Jésus me dit que je suis accompagné de la puissance de la résurrection. Imagine toutes les dalles que tu penses qui ne peuvent pas être bougées dans ta vie. Peut-être que pour toi, c'est l'amertume, l'insécurité, tes peurs, tes doutes. Ces choses-là peuvent être détruites et déplacées. Peu importe ce que c'est. Ces choses-là peuvent être détruites et déplacées par la puissance de la résurrection de Jésus qui habite en toi. Si tu manques de courage, si tu as peur, si tu penses que tu ne seras jamais capable de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu penses que tu ne pourras jamais être... le mari que Dieu veut que tu sois ou la femme que Dieu veut que tu sois, tu as en toi la puissance de la résurrection qui te permet de déplacer toutes les dalles. Vous savez, les gens à l'époque de Pierre qui étaient là ont écouté ce message et le texte nous dit qu'ils étaient ébranlés, ils étaient sans mots et tout ce qu'ils ont demandé à Pierre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Pierre va leur dire, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés et pour qu'on puisse avoir la vie avec lui. Je veux t'inviter ce matin à entendre ce message et à répondre à cet appel de Jésus qui dit que pour chaque personne qui vont croire que Jésus-Christ est le roi qui règne dans le ciel, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qui veut t'offrir la puissance de la résurrection en toi pour que tu puisses vivre une vie avec Dieu et selon Dieu. C'est disponible pour toi. Je t'invite ce matin à répondre à cet appel. On vous a partagé un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous texter. Ça va même nous faire plaisir de prier avec vous, de vous contacter, de prendre un temps pour parler davantage de Jésus avec toi. Mais on veut vraiment vous inviter à répondre à cet appel. Jésus est vivant. Jésus règne sur toutes choses. Jésus est plus grand que toutes choses. Et Jésus fait une différence aujourd'hui dans nos vies. Peut-être qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut, mais à l'extérieur de nous, Jésus, lui, a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, il nous donne ce qu'on a de besoin pour y arriver. Je t'invite ce matin à ne pas perdre courage, à persévérer dans la prière, à persévérer dans la prière pour que Dieu puisse continuer à faire un changement, un travail dans ta vie, pour que Dieu puisse continuer à faire une œuvre dans la vie des gens autour de toi. Sois encouragé, car Dieu agit encore aujourd'hui. Ne perdons pas espoir, Église de Sentier. Gardons courage. Parce que Dieu est vivant. Dieu nous donne sa puissance et Dieu nous envoie partout là où on est avec une puissance. Et parce qu'il règne, on peut lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche.